Bonjour à toutes et à toutes. On est le lundi 22 avril à 17h30 et ça commence fort sur Actu Radio.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Bienvenue les amis sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Actu Radio, je m'appelle Emma et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Au programme ce soir, une thématique autour de la scolarité en France. Je sais, c'est un éternel débat qui ne mettra jamais personne d'accord, mais je le trouve tout de même intéressant et enrichissant. C'est pourquoi tout d'abord, nous verrons un micro-trottoir, suivi d'une chronique, et pour finir d'une interview. C'est parti pour écouter le micro-trottoir, réalisé par Jade et moi-même.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Que pensez-vous du retour de l'uniforme à l'école ?
Je pense que dans une certaine mesure, ça va aider, dans la mesure où on connaît le potentiel des enfants et adolescents à se moquer assez fortement, on va dire, des autres vis-à-vis des différences. Un des points de réserve, c'est notamment le coût. Est-ce que c'est assuré par l'État ? Est-ce que c'est les familles ? Si c'est par l'État, est-ce que cet argent, il est vraiment utilisé, entre guillemets, de la bonne manière et pas notamment pour aider les salaires des professeurs, alléger les classes afin d'améliorer les situations scolaires des différents élèves, des professeurs.
Alors moi, je suis contre, parce que pour moi, tout le monde doit s'habiller comme il le veut, comme il l'entend. Et puis voir tout le monde pareil, je trouve pas ça dingue.
Je suis contre, parce que pour moi, cela n'enlèvera rien au fait que les gens connaissent les classes sociales des autres, parce qu'on fait surtout ça pour ça. Parce qu'on verra ça par la marque au niveau des sacs, des chaussures. Donc pour moi, c'est une perte de temps.
Je suis plutôt pour. Là, on est plus aujourd'hui dans une école de la démocratie, c'est-à-dire une école où on valorise l'individu et on met en avant ce qui fait qu'on est différent, avant de mettre en avant ce qui fait qu'on est les mêmes, quoi. Et moi, je suis plus pour une école de la République, qui mettent en avant ce qui fait qu'on se ressemble et non pas ce qui fait qu'on est différent.
Voilà pour ce micro-trottoir. On poursuit sur le même thème avec la chronique. La chroniqueuse d'aujourd'hui s'appelle Jade. Elle est étudiante au lycée Fragonard et est très concernée par ce sujet. Bonjour Jade.
Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du port de l'uniforme au sein de l'école. C'est un sujet qui suscite beaucoup de questionnements auprès des Français en ce moment. Et pourtant, de nombreux pays ont déjà adopté ce système-là, comme l'Asie, toute l'Afrique à l'exception du Mali, et aussi toute l'Amérique du Sud à l'exception du Brésil. Et pour ce qui est de l'Europe et de l'Amérique du Nord, l'idée fait encore son chemin.
Ah ouais ? Et en France, il y a déjà eu un uniforme imposé ?
Non, ce serait une grande première, puisque jusqu'aujourd'hui, l'uniforme n'a jamais été imposé dans les écoles publiques françaises. Seulement certaines restrictions sur ce que l'on a droit de porter ou non, comme les jeans à trous ou les signes religieux. En revanche, les élèves portaient la blouse, mais c'était uniquement pour pas se tacher avec de l'encre, jusqu'à l'apparition du stylo bic en 1960. Alors ce sujet, il amène plusieurs questionnements auprès des Français qui essayent de peser les pour et les contre. La première raison de cet éventuel retour à l'uniforme, ce serait d'effacer les inégalités, notamment budgétaires, qui pèsent aussi bien sur les familles que les élèves, et les moyens financiers des personnes se reflètent sur leur façon de s'habiller, comme le fait d'avoir les dernières pièces à la mode, d'avoir beaucoup de vêtements, et évidemment des vêtements de marque. Mais ce qui pose aussi problème, c'est que les moyens financiers ne se reflètent pas uniquement sur la façon de s'habiller, et la vraie question serait plutôt, est-ce que ce n'est pas juste mettre la poussière sous le tapis, et donc ne pas effacer les inégalités, mais juste les masquer ? D'ailleurs, le retour de l'uniforme, ce serait sûrement pour effacer les inégalités budgétaires, et donc qui financerait cet uniforme ? Est-ce que ce seraient les parents et comment est-ce que ça se passerait pour ceux qui n'ont pas les moyens de le financer ? Ou bien l'État ? Et est-ce que l'uniforme à l'école serait la priorité de l'État ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres problèmes au sein du système scolaire à financer avant cela ?
Oui, parce que je sais qu'il y a souvent un autre argument pour appuyer ce choix, c'est l'idée d'un sentiment d'appartenance.
Oui, exactement, de créer un esprit de ressemblance et de fraternité, mais cela peut s'avérer difficile dans un monde qui s'individualise de plus en plus. Certains souhaitent développer leur propre identité, leur personnalité via leur façon de s'habiller. Ils souhaitent donc se démarquer, se différencier des autres. Ou alors ils ont juste tout simplement leur propre style qui n'est pas en accord avec l'uniforme qui a été choisi par l'État. Et puis certains élèves peuvent se sentir mal dans leur corps. Prenons l'exemple d'une élève qui se considérait trop mince, qui aurait l'habitude de porter des affaires plus larges pour camoufler son corps par exemple. Cela ne serait pas possible avec un uniforme qu'elle n'aurait pas pu choisir. Elle se sentirait donc mal à l'aise, elle pourrait même être harcelée ou avoir des moqueries. Alors que l'un des arguments phares du retour de l'uniforme, c'est justement d'éviter les moqueries et le harcèlement, car chaque élève serait habillé de la même façon et on serait donc plus égaux. D'ailleurs, en parlant d'égalité, est-ce que les uniformes seraient les mêmes pour tous les sexes? Car cela pourrait poser un problème si les uniformes seraient genrés, par exemple, s'il y a une tenue pour les filles différente de celle des garçons. Que feraient les personnes transgenres ou bien non-binaires qui ne souhaiteraient pas porter la tenue que l'État leur aurait associée selon leur sexe? Et justement, si un élève ne souhaite pas porter l'uniforme qui est obligatoire, quelles seraient les sanctions s'il venait à l'école avec ses propres affaires? Mais selon moi, l'uniforme ne résoudrait pas tous les problèmes, que j'ai pu énumérer d'ailleurs. Cela pourrait en rajouter, mais ce serait une belle expérimentation, étant donné que l'on n'a jamais fait l'essai en France. Et justement, une centaine d'établissements scolaires se sont proposés à en faire l'expérience à partir de la rentrée 2024. Et on se retrouvera donc sûrement pour découvrir les répercussions que cela aura eues.
Merci Jade pour cette chronique intéressante. Avant de passer à l'interview, faisons une pause. Ça vous laisse le temps de vous faire un petit café. Restez avec nous, la suite dans un instant.
Your heart is hard to carry after dark. You're to blame for what we could have been, cause look at what we are. Your friends are scared to tell you you went too far. Funny that it's always been all about you from the start. I met someone new last night and we kicked it. And I'm going back there tonight. And you know what's on my mind this time. Going back there tonight. And you know what's on my mind, so. Should've stayed. You say the word, I'm on the way. This shit feels like teenage fever. I'm not scared of it, she ain't either. Why second guess I should've stayed? Cause you know it's on my mind, so.
Toujours sur Radio Campus Paris, en direct d'Actu Radio. Il est 17h45 et je vous retrouve pour écouter l'interview de Maë et Eva. Maë est un journaliste et Eva une invitée du jour, une lycéenne. Bonjour Maë et Eva.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons interviewer une lycéenne en première générale sur le sujet du système scolaire. Donc, bonjour Eva. Aujourd'hui, je vais te poser quelques questions par rapport au système scolaire. Je pense que tu es bien placée pour y répondre. Et donc, si tu veux bien commencer, c'est parti.
Bonjour, c'est avec plaisir que je vais répondre à toutes vos questions.
Donc, première question, selon toi, le bac est-il toujours pertinent ?
Je pense que le diplôme du bac est important pour permettre aux élèves de poursuivre des études supérieures. En revanche, je trouve que le déroulement des matières et les coefficients sont compliqués à gérer, notamment avec toutes les réformes du bac qu'il y a.
Selon toi, les notes reflètent-elles vraiment les compétences des élèves ?
Je pense que les notes ne reflètent pas totalement les élèves, car elles les reflètent sur un moment donné, mais pas forcément au long terme. De plus, depuis ces dernières années, la tricherie a beaucoup augmenté, notamment, je pense, à cause du téléphone portable. Donc, c'est compliqué de détecter forcément la tricherie et donc de savoir réellement le niveau de chaque élève.
Pensez-vous que d'intégrer plus de matières pratiques dans le tronc commun serait une bonne idée ?
Oui, je pense que ça serait très bien d'intégrer plus de matières pratiques, notamment par exemple dans les matières scientifiques comme la physique-chimie ou la SVT par exemple, en mettant plus de TP, parce que ça permet aux élèves qui sont plus dans la théorie, pas dans la théorie, mais dans la pratique, le fait de mettre en application les exercices demandés par les professeurs pourrait aider de nombreux élèves à mieux comprendre les notions.
Selon toi, est-ce qu'il y a une trop grosse pression scolaire qui peut jouer sur la santé mentale des élèves ?
Oui, je pense qu'il y a une très grosse pression scolaire qui peut notamment faire de la phobie scolaire à certains élèves. De plus, certains profs, heureusement pas tous, mais ne sont pas forcément très bienveillants et peuvent avoir des propos assez cassants envers les élèves qui peuvent leur faire perdre confiance en eux, surtout que ce n'est pas forcément un âge facile.
Selon toi, plus de sport à l'école serait une bonne idée ?
Oui, je pense que notamment au lycée, on réduit beaucoup les heures de sport. Mais je pense que bah, déjà, le sport, on sait que c'est bon pour la santé. Et puis, certains enfants ne peuvent peut-être pas pratiquer de sport extrascolaire. Donc, en remettre un peu plus peut leur faire découvrir déjà de nouveaux sports et leur permettre d'en pratiquer s'ils ne peuvent pas le faire.
Et pensez-vous qu'il faudrait plus de sorties éducatives ?
Oui, je trouve que les sorties éducatives sont très enrichissantes et aident grandement à développer la culture des enfants. Et encore une fois, certaines familles ne peuvent n'aiment peut-être pas emmener leurs enfants dans des musées ou voir des expositions, par exemple. Mais je pense que l'école y joue un rôle dans la culture des enfants et faire plus de sorties pédagogiques peut être une très bonne idée.
Et pour finir, pour toi, l'uniforme scolaire est-il nécessaire ?
Je suis assez mitigée sur la question parce que cela permettrait peut-être de cacher les inégalités, comme certains disent. Mais je pense que garder son style et le fait de s'habiller comme on le souhaite aide à la personnalité, à la construction de ce qu'on veut dégager et montrer aux autres. Je pense que c'est important de garder une diversité et que chacun ne se ressemble pas. De plus, je pense que ça ne cacherait pas vraiment les inégalités, étant donné qu'on verrait tout de même la marque, par exemple, sur les sacs à dos ou les chaussures. Donc, je ne pense pas que c'est totalement une bonne idée.
Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions.
Merci à vous, au revoir.
On voit bien que les avis sont différents, c'est très intéressant en tout cas. J'espère que l'émission vous a plu, c'est la fin. Je tiens à remercier Zoé, ma réalisatrice. Sans elle, l'émission n'aurait pas son peps et ses incroyables musiques. Merci à Jade pour sa chronique précise et enrichissante. Merci Maël, le journaliste, et l'invité Eva pour leur présence et leurs questions qui ont permis de soulever les opinions de la plupart des étudiants. Et un grand merci à moi-même pour mon énergie et bien sûr, merci à vous pour nous avoir écoutés jusqu'au bout avec attention. C'était Emma sur Radio Campus Paris en direct d'Actu Radio. Au revoir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Une journée en France diffusée par Radio Campus Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, à 17h30, nous nous envolerons à Paris pour nous informer de l'impact des JO sur le territoire français. Pour ce faire, nous allons voir un micro-trottoir fait par Mathieu, notre réalisateur, suivi d'une interview avec notre invitée Dorine, notre membre du comité des JO. Puis nous clôturons notre émission avec la chronique animée par notre chroniqueur Clément. Celle-ci se basera sur l'histoire d'un grand sportif.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
À présent, nous allons écouter le micro-trottoir réalisé par Mathieu. Ce dernier a décidé de se balader dans les couloirs du lycée Fragonard pour chercher des réponses à sa question. Que pensez-vous des JO 2024 à Paris ?
Qu'est-ce que tu penses des JO de Paris ?
Moi, personnellement, je pense que c'est pas forcément quelque chose de très utile. Pour moi, ça va plus vaquer à la pollution, puisque il y aura beaucoup de transports en commun d'utiliser, beaucoup de déchets plastiques retrouvés aussi par terre, puisque les gens ne peuvent pas forcément trouver où il y a des espaces pour jeter leurs déchets.
Je pense que ça sert juste à tirer des sous en France et à redorer le blason de Paris, qui est immonde en ce moment.
Je pense que c'est plutôt bien pour la France, c'est un événement qu'on voit rarement. Je pense qu'on le verra que d'une seule fois dans notre vie. Après, je pense pas que ça va être une grande réussite.
Merci Mathieu pour ce micro-trottoir qui apporte plusieurs réponses à cette question. Actuellement, nous sommes avec notre invitée Dorine. Elle a un avis enrichissant sur les JO. Bonjour Dorine.
Bonjour.
Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Selon vous, les JO impactent-ils l'environnement ?
Alors oui, il y a un impact certain sur l'écologie, cependant il y a un suivi régulier de chaque projet, et en particulier dans les zones sensibles écologiquement. Paris 2024 travaille à réduire son impact sur la biodiversité locale. J'ajoute aussi que ce sont à ce jour les JO les moins polluants produits.
D'accord, et si on reste en lien avec l'écologie, que pouvez-vous nous dire sur les infrastructures mises en place ?
Donc en effet, Paris 2024 a construit de nombreuses infrastructures telles que, par exemple, un centre aquatique à côté du Stade de France ou encore une arène couverte. Ceci dit, Paris 2024 veille quand même à s'appuyer sur des sites déjà existants, avec 95% des sites utilisés déjà existants, afin d'éviter la construction de trop de bâtiments inutiles.
Et que pouvez-vous nous dire sur les logements étudiants ? Car selon les informations, les étudiants seraient expulsés de leur logement.
Alors, les appartements étudiants sont réquisitionnés par le Crous à Paris, mais c'est réquisitionné pour le personnel de l'événement et accueille également des forces de sécurité, soignants, secouristes, etc. Et j'ajoute aussi que les étudiants reçoivent en compensation 100 € plus 2 places pour assister aux JO.
D'accord, mais du coup, tous les JO vont se dérouler seulement à Paris ?
Alors non, il y a certaines épreuves qui se déroulent hors de la ville de Paris dans tout le territoire français, avec par exemple Nantes pour le tennis de table, Bordeaux pour le football ou encore Lyon pour le volley. Cela dit, la plupart des épreuves se déroulent quand même dans Paris même.
Comme vous l'avez dit, beaucoup d'épreuves se dérouleront dans Paris. Cependant, cela peut-il poser problème sur les lignes de transport ?
Malheureusement pour les Parisiens, de nombreuses lignes de métro seront fermées du 26 juillet au 11 août 2024, de la ligne 5 à 14, excepté la 11. Ces mesures sont difficiles, mais sont primordiales pour la bonne organisation des JO Paris 2024.
D'accord, merci Dorine de nous avoir partagé ton point de vue sur les JO 2024.
Thank you.
après cette interview que nous allons écouter la chronique animée par Clément.
Oui, donc on reste en France avec un sportif exceptionnel du nom de Théo Curin. Donc Théo Curin, c'est un sportif handisport né le 20 avril 2000 et qui, à la suite d'une terrible maladie, a dû être amputé de ses quatre membres. Cependant, sa rencontre avec Philippe Croison va le motiver à commencer la natation. Et il va, à 13 ans, intégrer par exemple le pôle handisport de natation de Vichy. Il va décrocher une médaille d'argent aux 200 mètres nage libre au championnat du monde de natation handisport de 2015. Et il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il participe à ses premiers Jeux paralympiques en 2016 à Rio de Janeiro, où il arrive à la quatrième place aux 200 mètres nage libre, puis il obtient en 2017 deux médailles d'argent aux 100 mètres et 200 mètres nage libre au championnat du monde handisport de Mexico City. Plus récemment, Théo Curin a renoncé aux Jeux paralympiques de Tokyo pour se lancer aux côtés de l'activiste écologique Mathieu Vidvaut et de l'ancienne nageuse Malia Metella à la traversée du lac Titicaca, qui se situe entre le Pérou et la Bolivie. Donc cette traversée à la nage représente une distance d'environ 120 km et avait pour but de mettre en avant la pollution du lac. Donc il réussit cette traversée en novembre 2021 après près de 11 jours de nage. Puis enfin, Théo Curin a joué un rôle important dans les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, puisqu'il est membre de la Commission des athlètes, qui est globalement une instance qui a pour rôle de travailler à la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donc Théo Curin, c'est donc un sportif accompli et dont les projets sortent même du domaine sportif, puisqu'il a par exemple participé à des émissions télévisées comme Fort Boyard, et est même devenu en 2019 l'égérie de la marque Biotherm. En bref, ce sportif n'a pas cessé de nous surprendre et je suis personnellement impatient de voir les prochains projets qu'il mènera à bien.
Merci Clément pour cette chronique sur cet athlète sportif paralympique, Théo Curin. Je remercie aussi notre invitée Dorine d'être venue nous partager son point de vue sur les JO 2024 de Paris, mais je remercie aussi Mathieu pour son micro-trottoir intéressant. Je finis par vous remercier, vous, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Sur ce, bonne journée à tous!
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h30 sur Radio Campus Paris dans votre émission préférée, Les Experts à Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui touche 18% des Français, j'ai nommé la grossophobie. Avec nous, nous aurons notre journaliste préféré Clément et notre merveilleuse reporter Justine. Alors, tout d'abord, nous allons écouter le micro-trottoir de Justine sur la grossophobie, puis enfin l'interview de Clément.
Pour toi, c'est quoi la grossophobie ?
Oula.
Quand on est méchant avec les gens gros ?
Pour moi, c'est la peur de personnes en surpoids ou en situation d'obésité qui peut se transformer en discrimination ou en haine, en colère.
La haine, un peu en un sens, des gens qui ont une forte corpulence.
La grossophobie, ce serait vraiment l'harcèlement peut-être, mais vraiment à outrance des personnes en situation de surpoids, voire d'obésité. Pour moi, c'est au-delà de l'harcèlement. Parce que l'harcèlement, on peut y mettre fin. Alors que la grossophobie, vraiment, déjà, c'est beaucoup plus répandu, déjà, vis-à-vis des canons de beauté de la société, beaucoup plus compliqué à éradiquer aussi.
Est-ce que tu as déjà été témoin ou victime de propos grossophobes dans ta vie ?
Non, jamais.
Oui, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas forcément être en surpoids aussi pour être victime de ces propos-là, mais voilà.
De personnes que je ne connaissais pas, non. Après, c'est mes amis, mais ça, comme on se connaît depuis vraiment très très longtemps, genre au moins... Ouais, depuis la sixième, donc ça va faire 8 ans, on s'est passé au-dessus de ça, on sait qu'il n'y a pas de propos haineux ou quoi dans ce qu'on se dit, quoi. On arrive à passer au-dessus.
Alors jamais vraiment, j'ai jamais été victime ou témoin, mais moi je suis pas d'accord avec quoi.
Alors Justine, c'était votre micro-trottoir, alors il me semble que les lycéens étaient un peu mal informés sur la question de la grossophobie. Pouvez-vous nous donner une explication, une définition de ce phénomène ?
Donc la grossophobie, c'est l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes perçues comme grosses. La grossophobie en tant que telle n'est pas réprimandée, mais elle peut être inclue dans la discrimination physique qui, elle, est passible de 3 ans d'emprisonnement et ou 45 000 euros d'amende.
Merci beaucoup Justine. On passe à la pause musicale. Big girl, you are beautiful. Alors, nous avons écouté Big Girl, You Are Beautiful de Mika. Et maintenant, voici notre interview avec notre journaliste Clément. Bonjour Clément.
Bonjour à tous, je suis avec Emma, psychologue scolaire dans un lycée d'Île-de-France qui s'est longuement battue pour le bien-être des élèves. Bonjour Emma, bienvenue. Vous êtes psychologue scolaire, que conseilleriez-vous à un élève victime de grossophobie ?
Alors bonjour Clément. Je recommanderais d'abord de créer un environnement sûr où l'élève se sente à l'aise pour parler de ses expériences. Ensuite, je lui offrirais un soutien émotionnel et des conseils pour faire face à la grossophobie, comme développer la résilience, ignorer les commentaires négatifs et se concentrer sur sa propre valeur personnelle. Je travaillerais également avec l'école pour sensibiliser les élèves et le personnel à la diversité corporelle et à l'inclusion.
Vers qui peut-on se tourner lorsque l'on est victime de cette forme de discrimination ?
Pour obtenir de l'aide, l'élève peut se tourner vers un psychologue scolaire, ses amis, ses parents ou des groupes de soutien.
Et comment on s'en sort de ça ?
Alors pour s'en sortir, il doit se valoriser, trouver des activités qui lui procurent du bien-être, apprendre à répondre aux commentaires négatifs, se concentrer sur ses qualités et sensibiliser les autres à la grossophobie.
Pour vous, quelles sanctions doivent être appliquées aux harceleurs ?
Selon moi, les sanctions pour les individus grossophobes devraient être proportionnelles à la gravité de l'acte et devraient viser à éduquer et à responsabiliser plutôt qu'à punir uniquement. Cela pourrait inclure des avertissements, des réprimandes officielles, des séances de sensibilisation, des travaux communautaires, voire des mesures disciplinaires plus sévères en cas de récidive. L'objectif est de changer le comportement de l'offenseur tout en protégeant la victime et en favorisant un environnement scolaire sûr et respectueux.
Merci beaucoup Emma.
Alors c'est la fin de notre interview très enrichissante. Merci Clément, merci Emma, merci Justine, merci Arthur qui est en régie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre émission. Je vous dis à bientôt sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Shuffle Her.
Stop playing with them, Riot. And I'm bad like the Barbie, I'm a doll but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend, I'm a 10 so I pull in a can. Like Jazzy, Stacey, Nikki, all of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
red, but he spank me when I get bad. I'm in LA.
Est-ce que tu te considères féministe ?
Je me considère pas vraiment féministe, mais je me bats pour l'égalité des droits de femmes.
Je me considère comme féministe parce que pour moi, les droits des femmes, c'est vraiment une chose importante. Et je considère que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes.
Moi, je sais pas, parce que je sais pas vraiment ce que c'est être féministe, même si l'égalité des hommes et des femmes, ça serait bien. Enfin, faudrait changer des choses un peu.
Ouais, je me sens concernée par les droits de la femme et je trouve que c'est important de les valoriser. Après... J'en suis pas encore à mener des actions pour.
Mais si on part du principe qu'être féministe, c'est mener des actions, on n'est pas féministe.
D'accord.
Bah moi, je pense que l'égalité des sexes, c'est une bonne chose. Parce que comment voulez-vous que dans notre société, on puisse dire « Oui, un sexe est inférieur à un autre. » Pour moi, c'est absolument inenvisageable. Et bah, ça devrait l'être pour tout le monde. Donc ouais, l'égalité des sexes, c'est une bonne chose à atteindre. Ouais, un bel objectif.
Je suis désolé, mais l'égalité homme-femme ne peut pas exister, pas que je ne veuille pas, mais que c'est très compliqué à mettre en place.
Oui, je me considère féministe parce que je veux l'égalité entre les hommes-femmes, mais je suis pas extrémiste.
Okay. Et pour toi, c'est quoi extrémiste ?
Les extrémistes, c'est ceux qui pensent qu'il faut mettre la femme au-dessus de l'homme.
Pas qu'il y en ait un au-dessus de l'autre, il faut juste que ce soit une coopération.
Extrémiste... Les gens qui perdent leur pudeur pour la cause.
Après, on sait tous que, enfin, j'espère au moins qu'on sait tous que les extrémistes ne représentent pas la volonté de la majorité.
Pour moi, les féministes extrémistes, c'est déjà celles qui veulent imposer leur point de vue. Ok, elles ont des arguments, mais en fait, si la personne en face n'est pas d'accord, au bout d'un moment, il faut l'accepter.
Aujourd'hui, en ce 22 avril, nous allons parler de la condition des femmes. Et nous allons nous demander plus particulièrement si le vêtement dans la société actuelle est réellement un moyen de pression constant sur les femmes. Donc d'abord, nous verrons un point de vue global en définissant les termes abordés dans le micro-trottoir. Ensuite, on basculera sur un côté historique avec une chronique de Clémentine sur la mini-jupe et son histoire. Par la suite, nous enchaînerons sur un débat avec nos invités Clémentine et Noémie ainsi que nos deux journalistes, Léna et Sarah. Je vous laisse avec Léna.
On a pu constater lors du micro-trottoir que les gens ne savent pas vraiment ce qu'est le féminisme. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Et qu'en est-il du féminisme extrémiste ? Une personne féministe est une personne appartenant à un mouvement politique qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Au sens large, le féminisme dénonce les inégalités faites aux femmes au sein de la société. De plus, le féminisme extrémiste, ou féminisme radical comme mentionné de nombreuses fois dans le micro-trottoir, est un mouvement qui s'attaque à la racine du problème, le patriarcat. C'est-à-dire... le système dans lequel les hommes possèdent le pouvoir économique et politique, ainsi que le contrôle sur le groupe social des femmes. Les féministes radicales s'attaquent au fondement de l'oppression patriarcale et ne se contentent pas de simples changements législatifs et économiques. Cependant, elles n'exigent pas pour autant la supériorité des femmes sur les hommes.
C'est super, merci beaucoup Léna. La mini-jupe, un petit bout de tissu avec une grande histoire. Je laisse la parole à Clémentine pour sa chronique.
Bonjour. Alors d'abord, il faut savoir que la mini-jupe doit ses origines aux Romains dans l'Antiquité. Les soldats romains portaient au-dessus du genou ce qu'on appelle donc une tunique, donc tunica en latin. Et donc en fait, elle va tomber juste au-dessus du genou, comme j'ai dit, ce qui va donner donc à ces soldats des accès donc à des mouvements beaucoup plus souples et amples lors de leur bataille quand ils vont se battre. Après la chute de l'Empire romain, les tuniques, donc ces uniformes, vont être complètement abandonnées au début du Moyen-Âge pour être remplacées par de longues tuniques. Et c'est au début du Moyen-Âge que la différence entre hommes et femmes ne va pas vraiment se distinguer puisqu'ils vont porter de longues tuniques tous les deux. Et c'est au milieu et surtout vers la fin du Moyen-Âge que, par contre, la différence va... se faire voir, et les hommes vont porter des culottes bouffantes, c'est comme ça que ça va s'appeler, donc des culottes bouffantes, c'est comme des gros pantalons, et les femmes, des belles robes avec des beaux ornements, en fonction de la classe sociale, évidemment. Maintenant, je vais faire un bond dans l'histoire pour atterrir dans les années 1960, où la mini-jupe va devenir réellement un symbole d'émancipation pour la femme. Donc c'est une jupe qui va tomber au niveau du genou et un peu au-dessus du genou. Et historiquement, il faut savoir que dans ces années-là, il ne fallait absolument pas laisser le genou apparaître, puisque c'était considéré comme vraiment indécent. Et c'est Mary Quant qui va être la créatrice de la mini-jupe, puisqu'elle va tenir en fait, et elle va donner d'ailleurs son nom, la mini, à une voiture anglaise qu'elle possédait, voilà, la Mini 1000 pour l'anecdote. Donc, dans les années 80, un peu plus tard, la mini-jupe va adopter des couleurs beaucoup plus vives et des formes un peu plus différentes. Et malgré toutes les persécutions que les femmes vont recevoir à cause de ces jupes, la mini-jupe va rester un symbole d'indépendance et de soulèvement pour les droits de la femme.
Merci. Super, d'accord. Merci Clémentine pour cette épopée sur la mini-jupe. C'était Deceptason. Le vêtement dans la société actuelle est-il réellement un moyen de pression constant sur les femmes? C'est une question très difficile qui peut engendrer un débat super mouvementé. Pour y répondre, nous accueillons d'excellentes invitées Clémentine et Noémie. Nous aurons à nos côtés mes éloquentes collègues journalistes Léna et Sarah. Comment ça va?
Écoute, ça va. Et toi?
Ça va super.
Aujourd'hui, nous recevons deux superbes invitées. Clémentine, directrice de l'association féministe Aquarelle, et Noémie, étudiante en médecine aux idées assez conservatrices. Bonjour Clémentine, bonjour Noémie.
Bonjour.
Bonjour.
On va vous poser quelques questions sur votre rapport en tant que femme aux vêtements. Pour lancer le débat, nous vous demanderons, est-ce que selon vous, le vêtement est un moyen de pression constant sur les femmes dans la société actuelle?
Alors, donc pour répondre à cette question, je vais surtout m'appuyer sur un exemple principal, les réseaux sociaux. On peut rencontrer sur cette plateforme des femmes qui vont poster en fait leurs vêtements sur leurs réseaux sociaux pour juste montrer leur outfit du coup. Et en fait, elles ne vont pas forcément s'occuper des critiques qu'elles peuvent recevoir, par exemple dans les commentaires. Et en fait, elles ne se sentent pas sous pression vraiment de leurs vêtements. Elles ne se sentent pas contrôlées et elles vont se sentir justement libres. Après, la différence, c'est que les personnes justement qui sont derrière les écrans et qui regardent la vidéo, elles vont peut-être se sentir moins libres puisqu'elles vont regarder les commentaires qui peuvent être parfois virulents et elles ne vont pas oser en fait s'affirmer et s'habiller comme la personne sur la vidéo. Donc, je pense pas que ce soit vraiment un moyen de pression, mais pas forcément. Ça peut être un moyen de pression, mais peut-être pas constant.
Je pense, moi, que les mentalités ont beaucoup changé et que les femmes, aujourd'hui, ont le droit de s'habiller comme elles le veulent. Il faut en effet considérer le monde autour de soi. Mais de nos jours, les femmes ont le droit de se couvrir ou non. Il n'y a pas de moyen de pression vis-à-vis des femmes. Les critiques que peuvent recevoir certaines femmes par rapport à leurs vêtements sont également valables pour les hommes. Ils pourraient aussi se prendre des réflexions au même titre que les femmes. De même, dans des lieux publics tels que l'école, il est normal d'adopter un style vestimentaire simple qui couvre le corps pour le respect des autres. Il n'y a donc pas de pression sur les femmes à propos de leurs vêtements, et si l'on considère que oui, cela vaut également pour les hommes.
Mais si je reviens sur le sujet des restrictions dans les écoles, trouvez-vous que cela est quand même nécessaire, surtout dans les lycées par exemple, puisque les élèves commencent à grandir et à avoir des formes, surtout pour les jeunes filles. Et vous, avez-vous subi aussi des réflexions dans votre jeunesse?
Alors déjà, je vais commencer par le collège. Je trouve ça complètement choquant qu'en fait ce soit des adultes qui imposent des règles à des jeunes enfants, par exemple entre 10 et 14 ans. Je trouve ça complètement, comme un scandale en fait que ce soit des adultes qui disent à par exemple des jeunes filles « Non, ce que tu portes, ça va attirer les jeunes garçons. » Et parce qu'est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent pas savoir vraiment que ça va attirer les jeunes garçons, donc techniquement, ça les attire eux, et c'est ça qui va devenir beaucoup plus bizarre, en fait, que ce soit des adultes qui restreignent les jeunes filles, en fait, même les jeunes garçons, hein, que ce soit hommes et femmes. Mais d'ailleurs, j'ai une petite anecdote aussi à propos de ça. J'ai une amie, en fait, qui était venue au collège avec un short un peu court, mais un short quand même puisque c'était l'été, et on lui a dit, on lui a fait une remarque, oh mais c'est trop court, par une surveillante hein, d'ailleurs, que c'était trop court et que ce n'était pas du tout adapté pour travailler, et depuis ce jour elle n'a plus jamais osé porter un short aussi court, alors que ce short était commercialisé par tous les magasins, enfin je veux dire c'était un vêtement normal approprié, donc déjà ça m'a choquée quand elle m'a raconté cette histoire. Et pour changer d'établissement, entre guillemets, je vais prendre du coup le lycée. Au lycée, je trouve qu'il ne devrait pas forcément y avoir de restrictions, trop de restrictions, puisque on attend de nous, en fait, au lycée, qu'on ait des responsabilités. Donc on peut très bien avoir des responsabilités au niveau des vêtements. Enfin, c'est nos vêtements, on a envie de se sentir bien, on est au lycée, on est grand, on a nos mentalités, donc je ne vois pas pourquoi un adulte devrait me dire « Non, ce que tu fais, c'est pas bien ». Donc déjà, je vais donner la parole à Noémie.
Moi, je pense que cela peut être utile dans certains cas, puisque l'on peut effectivement voir que les jeunes de nos jours veulent grandir de plus en plus vite et se permettre des choix vestimentaires non adaptés à leur âge et encore moins pour l'école. Je ne dis pas que les jeunes filles ne devraient pas pouvoir mettre de robe en été, mais certaines robes dévoilent beaucoup trop le corps. Les écoles ont donc raison de limiter d'une certaine manière les tenues de ces jeunes filles, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour les garçons, puisque la plupart d'entre eux ne portent pas de vêtements courts ou près du corps. Personnellement, je n'ai jamais eu à subir de réflexion à cause de mon style vestimentaire de la part d'enseignants ou de surveillants au collège comme au lycée.
Clémentine, vous nous avez fait part d'une anecdote concernant votre amie quand vous étiez plus jeune. Mais si ce n'est à l'école, est-ce que vous avez déjà fait face, vous, à des remarques sur votre tenue ou a été témoin, donc, dans un autre établissement, à des remarques faites donc, à autrui par rapport à son style vestimentaire, sa tenue ou quoi?
Alors, personnellement, je n'ai pas reçu de remarques vraiment virulentes vis-à-vis de mon style vestimentaire. Mais de toute façon, même si j'en recevais, je trouverais ça tout de même choquant que quelqu'un me dise ce que tu portes, c'est pas bien, tu devrais pas t'habiller comme ça. Et puis dans la rue, si ce n'est pas à moi et que ce soit à une autre personne, je trouve ça tout de même choquant également. Et puis une femme ne devrait pas avoir peur aussi dans la rue de s'habiller d'une certaine manière. Elle devrait être libre de pouvoir s'habiller comme elle veut, comme elle veut.
Moi, j'ai toujours eu un style vestimentaire très classique et je n'ai jamais eu à recevoir de remarques. J'ai été élevée de façon modeste avec une image de la femme respectable et simple. J'ai en effet été témoin de plusieurs scènes ou remarques désobligeantes, mais pas pour autant vulgaires. Lorsqu'une amie s'était habillée relativement court pour aller à l'université, elle a en effet reçu des réflexions comme quoi ce n'était pas adapté. Ce n'est pas pour autant qu'on lui a demandé d'aller se changer.
J'aimerais juste rajouter une dernière petite chose. Et puis de toute façon, malgré les vêtements, n'importe lesquels que je vais porter, il y aura toujours quelqu'un pour me critiquer. Donc autant m'habiller comme je veux, et si je me sens bien, bah, je m'habille comme si je me sens bien. Donc voilà.
Mais comme vous venez de nous le dire, du coup, Clémentine, le matin, lorsque vous vous habillez, est-ce que vous demandez ce que les gens pourraient penser de votre tenue? Est-ce que vous vous habillez surtout pour vous, ou vous pensez quand même du coup aux autres, ce que ça pourrait leur donner comme façon de penser, okay, quoi.
Alors non, absolument pas. Je ne m'habille pas pour les autres. J'ai pas envie de penser à ce que les autres vont penser eux. J'ai pas envie de me regarder le matin dans le miroir et me dire est-ce que les gens vont m'apprécier, est-ce que les gens vont se dire si c'est bien ou pas ce que je porte. Donc non, je m'habille pour moi-même. Si je me sens bien dans un certain vêtement, bah, je vais le mettre. J'ai envie de me sentir bien. Donc non, je vais m'habiller pour moi. Donc voilà.
Moi, je ne m'habille pas pour les autres, évidemment, puisque c'est tout de même mon propre corps. Mais je réfléchis en effet à la façon dont les gens pourraient réagir face à ma tenue. Nous vivons en société, il est donc évident de faire attention à son image et à sa réputation. Cela en vient du bon sens. Les vêtements reflètent la personne que nous sommes et donnent la première image aux autres. Je fais donc attention à ce que cela reste dans la simplicité et non dans la vulgarité. Et cela passe donc évidemment par mon choix de tenue chaque jour. De même que les gens qui réfléchissent à leur tenue en fonction de l'occasion, je choisis la mienne en fonction de l'entourage avec lequel je m'apprête à sortir tout en restant dans mon propre style.
Mais du coup, pour finir sur ce débat, pensez-vous tout de même que les femmes ont plus de liberté concernant leurs vêtements ou que les mentalités ont simplement changé? Par exemple, Noémie, qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a eu beaucoup de changements dans la société ces dernières années et les femmes ont beaucoup gagné de liberté concernant les vêtements. Les femmes ont toujours été limitées dans leurs choix vestimentaires. Elles ne pouvaient même pas porter de pantalon il y a une époque. Et la femme aujourd'hui devrait se réjouir des droits qu'elles ont acquéris et arrêter de se plaindre. Elles choisissent de s'habiller comme elles le veulent. De plus, les jeunes en demandent trop en ne se contentant pas de ce qu'ils ont.
Premièrement, pour répondre à la question, les mentalités ont effectivement évolué. C'est grâce à ces mentalités qui ont évolué que les femmes se trouvent aujourd'hui un peu plus libres. Mais pour rebondir à ce que vous avez dit, Noémie, évidemment que les gens seront toujours là pour critiquer, mais les femmes ne devraient pas subir ça dans la rue. Donc un tel harcèlement dans la rue, ou même que ce soit au travail, elles ne doivent pas subir un harcèlement, comme je l'ai dit, constant. Justement, vous dites, Noémie, vous dites que les styles change et qu'elles devraient s'habiller comme elles veulent, mais alors pourquoi est-ce qu'elles mériteraient autant de harcèlement et c'est justement en fait à cause des gens comme vous, je suis désolée, mais qu'on ne peut pas en fait se contenter de ce qu'on a, puisque même si on essaye en fait quelque chose de nouveau, vous serez toujours là pour nous rabaisser, et en tant que femme et en tant qu'être humain, je n'accepterai pas ce rabaissement de votre part, sachant que vous contredisez vous-même.
Bah écoutez, je tiens à vous remercier parce que vous êtes toutes les quatre des intervenantes très intéressantes et très, très cultivées. Voilà. Et en plus, je tiens à dire que c'était un débat qui s'est fait dans les règles de l'art, à savoir le respect de l'un et de l'autre. Et c'est vraiment l'un des piliers de cette émission, donc je tiens vraiment à vous remercier. Donc pour les internautes qui nous écoutent, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et je vous laisse méditer sur ce débat. Voilà, bonne journée.